Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour Ariane.
Bonjour Pierre et bienvenue à toutes et à tous dans le carnet de région.
Le magazine collaboratif des radios associatives et non commerciales en langue de Roussillon.
Ce premier numéro de décembre est présenté par Pierre Isnard Dupuis de Radio Escapade
et Ryan Saoud en stage de découverte de 3e au studio de Radio Escapade.
Au sommaire cette semaine,
48FM a rencontré Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique et à l'innovation, à l'occasion de sa venue à Mende pour les Assises nationales de la médiation numérique.
La journée COSI-CEVEN organisée par l'entente interdépartementale se tient à Florac vendredi 2 décembre, un sujet auquel s'intéresse Radio Bartas.
Après la Lozère, nous irons dans le Gard où Radio Grille Ouverte nous informe sur le concours Alès Audace.
Suite au démantèlement de la jungle de Calais, 29 mineurs isolés ont été accueillis à Monoblé, un sujet de Radio Escapade.
Du côté de l'Hérault, Radio Aviva se fait l'écho de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Et RCF Maguelone Hérault nous parle des projets à venir au CHU de Montpellier.
Les 4e Assises nationales de la médiation numérique se sont tenues à Mende la semaine dernière. Axel Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation, est venu clore ces assises. L'occasion de revenir sur la création d'une coopérative nationale de la médiation numérique. Axel Lemaire.
C'est la première fois qu'enfin toutes celles et ceux qu'on appelle les médiateurs numériques vont se fédérer dans les territoires et ensuite en réseau national sous forme de coopérative, eh bien pour exister comme force dans les politiques publiques qui sont menées. Que sont les médiateurs numériques ? Ce sont les gens qui aident les personnes qui s'y retrouvent peu ou mal dans un environnement de plus en plus numérique à effectuer des démarches en ligne, à savoir utiliser les outils pour avoir une vie plus facile. Ce sont des gens qui ont fait le choix de consacrer leur vie professionnelle au partage et à la solidarité. Et c'est du partage des savoirs et des connaissances pour accompagner toute la population dans la découverte et l'appropriation des outils numériques. Ce qui est peut-être plus nouveau, c'est le fait que le dialogue ne se fait pas uniquement au niveau micro-local ou micro-régional, mais que, notamment grâce aux outils numériques, hein, on partage les meilleures pratiques, tout ce qui se passe en matière de littératie numérique, d'interaction avec Pôle emploi, d'interaction avec les centres d'action sociale, avec les écoles, eh bien, on observe ça et on partage avec d'autres territoires, dans d'autres régions, parce que la médiation numérique commence vraiment à exister au plan national. Et donc, le but, c'est qu'il y ait de plus en plus d'échanges entre des territoires de grande taille.
D'après la secrétaire d'État, 2017 sera une année charnière pour la médiation numérique. C'était un sujet de Ludovic Terol de 48FM.
Radio Bartas a reçu dans ses studios Alain Argilier, maire de Vébron et représentant de l'entente interdépartementale des Causses et Cévennes pour aborder la journée des Causses et Cévennes qui se tient le vendredi 2 décembre à Florac, en Lozère.
D'habitude, on a deux organismes qui gèrent un petit peu les territoires. Le bien inscrit à l'UNESCO depuis 2011, des Causses et des Cévennes, qui est inscrit, je le rappelle, pour son agropastoralisme méditerranéen. Ces deux organismes sont la conférence territoriale qui est un petit peu l'espace décisionnel qui définit les grandes orientations et de gestion et qui valide un petit peu les objectifs qui visent à garantir la bonne conservation du territoire. Alors ça, c'est l'entente interdépartementale des Causses et des Cévennes. C'est interdépartemental puisqu'il y a 4 départements qui le gèrent, à savoir la Lozère, qui représente à lui seul 50% du territoire, le Gard, l'Aveyron et l'Hérault. Voilà. Cette entente départementale, cette conférence territoriale est composée uniquement de conseillers généraux, puisque c'est les conseillers généraux qui gèrent l'espace. Et puis, il y a le comité d'orientation, qui est un petit peu l'organe de concertation et d'échange avec l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, on appelle ça l'AVEC, c'est l'association de valorisation de l'espace Causses et Cévennes. Et cet AVEC est composé essentiellement des gens qui ont mené à bien le projet de l'inscription des Causses et Cévennes au patrimoine mondial de l'humanité.
Vous parlez d'un nouvel élan à donner, en fait, à l'établissement
engagement public. Qu'est-ce que ça serait dans l'idéal, ce nouvel élan ? Qu'est-ce qui a envie d'être lancé ?
Depuis l'inscription en 2011, on a beaucoup travaillé, notamment sur l'inventaire du patrimoine, sur beaucoup de choses avec l'UNESCO, l'ICOMOS, à Paris. Et puis maintenant, on a mis en place un plan d'action, COSSÉCÉVENNES, qui va nous mener de 2016 à 2021-2022. Et ce nouvel élan, c'est justement du concret pour le territoire, c'est-à-dire qu'après l'avoir écrit ce plan d'action, mais il faut rentrer dedans et il faut mettre en place toutes les actions.
Vous dites du concret, est-ce qu'on peut peut-être avoir un exemple justement ? C'est quoi un exemple concret ?
Par exemple, on veut aider au maintien de l'activité agro-pastorale, on veut mieux connaître et mieux gérer les paysages, on veut accompagner les évolutions du territoire en architecture et en urbanisme. En matière de tourisme, on veut accompagner le développement d'un tourisme COSSÉCÉVENNES. Donc c'est un petit peu toutes ces actions qu'on retrouvera dans les ateliers de l'après-midi de vendredi.
Alors avant de venir justement aux ateliers, une petite dernière question, j'ai envie de vous demander, on entend beaucoup, en tout cas moi j'ai beaucoup vu les mots « le bien inscrit ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le bien inscrit ?
Mais voilà, c'est le bien inscrit, c'est le pourquoi on est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Donc le bien inscrit, c'est le territoire COSSÉCÉVENNES, c'est un bien, c'est concret, c'est un territoire, et on est inscrit par rapport à l'agropastoralisme méditerranéen, ce qui veut dire que sur ce territoire COSSÉCÉVENNES, on arrive à retrouver l'ensemble des activités agropastorales qu'on peut pratiquer sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Sur ce petit territoire, on retrouve toutes ces activités-là.
La journée des COSSÉCÉVENNES a lieu ce vendredi 2 décembre à Supagro, à Florac. Elle est ouverte à tous et se veut comme un espace d'expression et de concertation au travers d'ateliers thématiques. C'était un entretien mené par Camille Jonin et Christophe Binot de Radio Bartas.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Mercredi 14 décembre seront connus les lauréats du concours Alès Audace organisé par Alès Aglo. Depuis 2012, ce concours ouvert à tout porteur de projet économique a permis de soutenir une trentaine de réalisations grâce à l'attribution de 370 000 euros. Cette année, 101 dossiers de candidature ont été sélectionnés pour ne retenir que 18 finalistes. Se côtoient des entreprises à haute valeur technologique, telles des logiciels de gestion ou industriels, avec des productions locales, telles une gamme de cosmétiques à base de châtaigne ou des plantes aromatiques distillées. La grande nouveauté de cette édition 2016 d'Alès Audace est la création d'un prix du public doté de 5000 euros. Le public est invité à voter par internet jusqu'au 11 décembre, comme l'explique le président du jury, Philippe Ribaud.
La principale nouveauté consiste dans la création d'un prix du public et qui sera cumulable avec les prix attribués par le jury.
Comment votera le public ?
Par internet et sur le site alès-audace.fr. À partir du 28 novembre jusqu'au 11 décembre. C'est une manière d'associer la population à ce qui se passe sur notre territoire, ou leur faire connaître les gisements de créativité, d'innovation et de motivation des porteurs de projets. Je crois que c'est important de leur faire prendre conscience que nous avons des atouts, que nous devons les valoriser en organisant par exemple ce type de concours.
Parmi les 18 projets retenus, il y a un mélange assez étonnant entre des projets avec des produits du terroir, la châtaigne, le piment bio, et des projets très high-tech.
C'est très surprenant, en effet, chaque année ça nous surprend, mais ça correspond finalement à la diversité de notre territoire, qui est à la fois industriel et rural. Donc il y a des projets, comme vous le dites, dans la mécanique, dans les matériaux, des projets agricoles, des projets cosmétiques. Donc c'est extrêmement varié et ça souligne une fois de plus la richesse de notre territoire dans ces différents domaines.
Comment sélectionner des projets aussi variés ?
On se fixe quelques critères, quelques priorités. Le critère numéro un, c'est la pertinence pour le territoire. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un projet nous semble à la fois cohérent, viable, et porteur de résultats, de viabilité pour l'entreprise, il faut, au-delà de ça, qu'il puisse apporter sa pierre à l'édifice du développement de notre territoire.
Le vote se fait sur le www.alès-audace.fr. Cette édition 2016 s'est choisie par un prestigieux, l'entrepreneur Moued Altrad, bien connu des aficionados de rugby, car il préside le club du Montpellier Héros Rugby. Présentation par Jalil Benadbila, vice-président d'Alès Agglomération.
Il s'agit de M. Moued Altrad, entrepreneur chevronné et reconnu nationalement et internationalement, qui a reçu en 2015 le prix prestigieux de meilleur entrepreneur mondial de l'année. qui est à la tête d'un grand groupe, Altra, du même nom, spécialisé dans les échafaudages, les bétonnières et des produits du bâtiment, et qui réalise 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a 22 000 salariés, et qui est une véritable réussite. Et avec un sens particulier, puisque c'est quelqu'un qui a réussi en partant pratiquement de rien, donc c'est tout un symbole, qui est ancré dans notre territoire, et ça c'est très important, et qui est connu nationalement et internationalement aujourd'hui.
C'est par ces liens justement que Alès Audace noue avec un entrepreneur comme Moed Altrad ou d'autres structures que ce concours peut exister.
Le concours a le mérite d'exister, a le mérite d'être national, a le mérite de doter de façon forte quand même sur un territoire comme le nôtre. Vous pouvez le comparer à d'autres concours, la dotation est réellement forte, importante, elle donne un véritable coup de pouce aux jeunes entrepreneurs. Mais il faut des étapes et aujourd'hui le concours doit passer une étape, un cap important, celui de la reconnaissance non seulement sur le territoire avec le prix du public, mais une reconnaissance au niveau de la nouvelle grande région. Hein. Donc il faut que le concours ait une résonance jusqu'à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Et puis pourquoi pas nationalement, puisque nous sommes un concours national. Donc pour cela, il faut des vecteurs de communication, des vecteurs économiques importants qui puissent porter cette image, cette notoriété, comme des mines d'Alès, comme le club leader qui parraine les lauréats, comme un parrain prestigieux comme Moed Altrad. Et donc il faut une combinaison de paramètres importants pour pouvoir porter, non seulement juste en termes de communication et d'image, mais aussi pour faire venir de nouveaux candidats d'autres régions qui voudraient s'installer ici, nous apporter leur savoir-faire, leurs innovations et pourquoi pas installer leur famille ici, créer de l'emploi, créer de la valeur. C'est quand même un des objectifs du concours, c'est bien sûr aider les jeunes ou moins jeunes, les jeunes entrepreneurs les plus innovants de notre territoire, mais aussi attirer des investisseurs, attirer de nouvelles entreprises jeunes et moins jeunes qui voudraient s'installer sur le territoire. Et donc ce côté de marketing territorial n'est pas à négliger. Et c'est pour ça qu'on travaille pour le favoriser au maximum avec tous les moyens qui sont à notre disposition.
Dans l'incapacité de pouvoir assister en personne à la cérémonie de remise des prix du concours Alès Audace le 14 décembre prochain, Moed Altrad a souhaité s'excuser en offrant 200 places aux jeunes Alésiens pour le match de rugby Montpellier-Castres du dimanche 11 décembre. Ce sujet nous a été envoyé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte.
Suite au démantèlement de la jungle de Calais, 29 jeunes Afghans sont arrivés au centre des Amariniers sur la commune de Monoblé dans le Gard. Réaction de Philippe Castanon, maire de ce village de 700 habitants.
J'ai accueilli cette nouvelle d'abord un petit peu chagriné, pour la simple et bonne raison que depuis 6 mois, nous travaillons avec des garanties données par la cohésion sociale ou par les services de la préfecture de l'accueil de familles. Nous avons informé notre population, nous avons multiplié les réunions et dit à tout le monde que nous accueillons des familles sur ce centre-là. Et puis du jour au lendemain, en raison de l'urgence du démantèlement de la jungle de Calais, eh bien c'est 29 mineurs qui sont arrivés sur le centre des Amariniers. Pour m'être rendu sur le site à plusieurs reprises, c'est impressionnant de voir des enfants et de se dire qu'ils ont parcouru des milliers de kilomètres au travers de l'Asie et au travers de l'Europe et qu'ils se retrouvent là sans savoir réellement où ils sont puisqu'ils ont été mis dans des bus à Calais et ils ont débarqué à Jurassic Park des Amariniers. Et donc, pour l'instant, je pense qu'ils sont en phase de reconstruction et c'est un répit.
Accueillis en centre d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés étrangers, les jeunes Afghans ne bénéficient pas pour le moment de la protection de l'aide sociale à l'enfance, comme cela devrait être le cas pour tout mineur seul sur le sol français. Ils sont en attente d'un avenir administratif et migratoire dans ce lieu isolé en forêt Cévenole. Des officiers britanniques du Home Office, c'est-à-dire le service d'immigration, sont venus les rencontrer pour prendre en compte leur volonté d'aller outre-Manche au titre du regroupement familial. Fred, du collectif Seven Sans Frontières, se rend régulièrement sur site pour rencontrer et soutenir les jeunes.
Les officiers anglais, donc a priori, ont recueilli les demandes de regroupement familial pour tous les jeunes. Ils doivent donner une réponse d'ici plusieurs semaines. Donc d'ici là, a priori, c'est le fou complet, c'est l'attente, quoi. Donc ce qu'on peut redouter, c'est qu'il y ait beaucoup de ces jeunes donc pour lesquels les demandes soient refusées. Il semblerait qu'on leur proposera de faire des demandes d'asile en France, auquel cas ils seraient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Pour ceux qui ne veulent pas effectuer de demande, qu'est-ce qui se passera? Pour ceux qui effectueront la demande, on ils seront donc redispatchés encore une fois dans d'autres départements qui accepteront de les prendre. Pour ceux qu'on jugera majeurs, en fait, ils seront reconduits dans d'autres centres d'accueil pour majeurs.
Le passage des officiers britanniques donne lieu à de nouveaux contrôles de la minorité ou majorité des personnes. Comme cela a été à l'œuvre à Calais, les personnes considérées comme mineures le sont à l'aide d'observations du faciès. Dans des cas plus rares, il est fait recours au test osseux censé prouver le passage ou non à la majorité. Les deux méthodes sont dénoncées par les associations pour les droits des étrangers comme étant arbitraires et contraires aux droits humains. De son côté, à destination des habitants du hameau de Vallestalière, voisin du centre, Philippe Castanon, le maire de Monoblé, lance un message de fraternité pour l'accueil de ces jeunes.
La réussite des habitants, la réussite de la commune sera de faire de cet événement un non-événement et de montrer que par rapport aux représentations, aux images qu'on nous met dans la tête, eh bien, finalement, la situation n'est pas si terrible que ça. Monoblé n'a pas changé depuis le 3 novembre. Sur Vallestalière, il n'y a pas eu plus de vols, plus de méfaits. Et notre Cévennes est toujours aussi belle. D'autant plus quand elle joue son rôle d'accueil de ces populations en difficulté et qui quittent leur pays non pas par plaisir, mais par obligation et souvent pour fuir la mort.
Pour l'heure, la CLED, association gestionnaire du centre d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés étrangers, ne souhaite pas s'exprimer. C'est un sujet réalisé par Pierre Isnard Dupuis de Radio Escapade.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le 25 novembre se tenait la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, les trois clubs Zonta de Montpellier, Montferrier et Castelnau organisaient une manifestation d'information et de sensibilisation sur la place de la Comédie à Montpellier. Cécile Naval, présidente de l'antenne de Montferrier Olympe de Gouges, précise les objectifs de cette journée.
Je pense que c'est un message percutant en fait. Hein. Il fallait frapper les esprits pour que cette violence recule et que surtout tout, on prenne conscience que cette violence est quelque chose de terrible, bien entendu parce que c'est une violation du droit des femmes, mais bien sûr, en plus de ça, c'est au niveau économique, à tous les niveaux, finalement, c'est un handicap, cette violence, puisqu'elle crée des soucis à tout niveau de la société, et surtout, arrêter de penser que la violence n'existe que dans certains milieux sociaux, malheureusement, elle existe partout.
L'association internationale Zonta a été créée en 1919 à Buffalo, aux États-Unis, avec en mission principale l'autonomie des femmes. Elisabeth Cazeneuve, présidente de l'antenne de Castelnau.
Le Zonta, c'est surtout pour que les femmes puissent devenir autonomes dans le monde entier. C'est pour aider toutes les femmes à pouvoir être autonomes. Et nous aidons tous les pays, les femmes africaines et un peu dans le monde entier.
Le statut des femmes est défendu dans tous les domaines. Cécile Naval nous les précise.
Nous les soutenons tant au niveau de la santé qu'au niveau de leurs droits, tout ce qui peut concerner une femme en fait. Par exemple, on essaie de travailler sur le plafond de verre pour éviter que les salaires des femmes soient inférieurs. Et bien entendu, pour ce qui nous préoccupe pour le 25 novembre, la violence faite aux femmes qui est quand même une pandémie et qui touche toutes les femmes du monde entier, malheureusement.
C'était un sujet d'Ereari Souming et Liliane Drey de Radio Aviva.
On reste à Montpellier pour le dernier sujet de ce carnet de région. Valoriser et moderniser. C'est la volonté du CHU de Montpellier. Le centre hospitalier a présenté ses nouveaux projets pour les années à venir, avec quatre grands axes. Développer l'innovation et la recherche. Créer un hôpital, mères et enfants, mais aussi investir dans la cancérologie. Un des points forts du CHU, selon le directeur Thomas Leludec.
La cancérologie au CHU, c'est 4000 nouveaux patients par an qui sont pris en charge par près de 190 équipes. Le CHU, on peut dire, est mobilisé dans toutes ses composantes, aussi bien donc pour les traitements que pour le diagnostic, pour l'accompagnement des personnes aussi. Et je pense que c'est important que nous ayons les soins de support, l'accompagnement social aussi, des gens qui sont confrontés à cette maladie terrible. Notre projet, c'est de pouvoir se rendre beaucoup plus accessible dans le domaine du diagnostic et du suivi des patients. Donc c'est la raison pour laquelle l'année prochaine nous ouvrirons des plateformes d'imagerie supplémentaires, un scanner supplémentaire, une IRM supplémentaire, mais c'est aussi travailler de manière très étroite avec l'Institut du cancer de Montpellier, puisque à nous deux nous sommes le pôle hospitalo-universitaire de cancérologie de la région de Montpellier, et de faire en sorte que nous mutualisions chaque fois que possible nos compétences, nos espaces d'hospitalisation. Donc on est en train de travailler de manière très étroite.
Des propos recueillis par Alice Berthias de RCF, Maguelone Hérault. Je vous remercie d'avoir tendu l'oreille et de nous avoir écoutés lors de ce carnet de région, le magazine collaboratif des radios associatives et non commerciales en Languedoc-Roussillon. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute sur les ondes. À bientôt.
Et merci à toi Ryan pour la co-animation de ce carnet de région. On vous souhaite une très belle suite sur votre radio.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.